Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale infernale. Nous sommes nombreux ce matin au micro de Radio Graphite. Je suis Aurore, vous me connaissez déjà peut-être puisque j'anime une autre émission qui s'appelle La Voix de la Plume. Mais ce matin, c'est un nouveau concept que je vous propose. La matinale infernale. Ouais, j'aime bien le bruit. Ce sont 7 chroniqueurs amateurs qui viennent vous proposer leur passion, vous faire voyager dans le temps et dans l'espace. Avec nous ce matin, Naël, notre petit chroniqueur sportif.
Bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler des tirs. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un tir ? C'est un coup que l'on va donc frapper en direction du but adverse pour tenter de marquer. Il y a l'enroulé, qui donne un effet tournant en ballon. Elle se frappe de l'intérieur du pied. Le Brésilien Coutinho en a fait mis une très belle en 2018 face à la Suisse, en phase de poule de la Coupe du Monde. Elle se frappe de l'intérieur du pied. Lionel Messi, Neymar ou encore Paul Pogba en sont des as. Il y a l'extérieur du pied, qui donne un effet un peu comme l'enroulé, sauf qu'elle se frappe donc de l'extérieur du pied. Elle est généralement utilisée pour entrer en force. Si vous voulez voir de magnifiques extérieurs du pied, Luka Modric est le génie de cette catégorie de frappe. Il y a la panenka, qui provient du joueur panenka. C'est une sorte de lob qui est généralement utilisée sur les pénaltys. Ronaldo ou encore Neymar ont déjà utilisé cette technique. Pour les panenka, je vous conseille de regarder sur tous les tireurs de pénalty dans le monde, mais plus précisément Leo Messi ou bien sûr le maestro Zizou. Il y a aussi le pointu qui n'est pas très précis mais qui envoie des frappes vachement fortes. Si vous voulez voir des pointus, regardez soit Fabinho, soit Pogba, soit Lukaku. Et si vous voulez tout voir, regardez CR7, enfin je veux dire Cristiano Ronaldo. Comme je suis amateur du jeu FIFA et des jeux vidéo sur PS4, je vais vous donner les différentes techniques de tir sur FIFA. Sur le jeu vidéo FIFA, les enroulés se font en appuyant sur R1 et sur rond. Pour faire une panenka, on utilise les boutons L1 et rond. Si vous ne l'avez pas déjà remarqué, rond sert donc à tirer. Et pour faire un pointu, il suffit tout simplement de faire rond. C'est fini, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'écoutez pas et écoutez le reste de l'émission pour apprendre de nouvelles choses.
J'avoue ne rien y connaître, ni en football, ni en FIFA. Et j'ai trouvé ça très cool d'apprendre les différents tirs, j'ignorais qu'il y en avait autant.
Merci Liam. Oui, parce que Naël était tellement pressée de faire sa chronique qu'elle n'a pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde.
Ouais.
Mais c'est bien, merci Naël. Avec nous, on a aussi Camille aujourd'hui.
Bonjour Aurore, bonjour chères auditrices et auditeurs. Bienvenue dans cette première chronique de Camille prend soin de vous. Et sans plus tarder, je propose de prendre soin de vous en vous parlant de la pratique ancestrale du jeûne alimentaire. Bien, on vous a toujours dit, la santé se trouve dans votre assiette. Et oui, la santé se trouve bien dans ce que nous mangeons. Et ça ne date pas d'hier, puisqu'un certain Hippocrate, père de la médecine moderne, disait que ton alimentation soit ta première médecine. Il est donc reconnu aujourd'hui que ce que nous mangeons influence et influencera notre santé. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Puisque nous allons affirmer que s'abstenir de manger pendant un certain temps va être bénéfique pour notre santé. Et ça, Hippocrate, médecin de l'Antiquité, l'affirmait déjà dans la formule « jeûner, c'est se soigner ». Eh bien, jeûnons. Aujourd'hui, ce n'est plus simplement se préserver, mais c'est aussi conserver son capital santé. En effet, quoi de mieux pour prendre soin de ses intestins que de les laisser au repos ? Au repos. Notre pauvre système digestif est aujourd'hui constamment sollicité. Prenons l'exemple d'une journée type d'alimentation. Il est 7h, 8h, vous prenez votre petit déjeuner. Et puis arrive 10h, allez, un petit encas pour combler ce petit creux. Et puis enfin, super, midi, le déjeuner. Et enfin, à 16h, 16h30, un petit goûter nous fait du bien. Et on repart à 18h, voire 19h pour l'apéro et enfin finir avec le repas à 20h. Vous voyez, 6 repas en l'espace de 18 heures. Je trouve ça énorme. Sachez que le temps de digestion est en moyenne de 16 heures et que cela sollicite énormément d'énergie chez l'être humain. D'où le fameux coup de pompe d'ailleurs, après le repas de midi à 14 heures, la fameuse sieste. Voilà. Vous voyez, avec toutes ces prises alimentaires, on laisse peu de temps à notre corps pour digérer chaque repas. Et surtout, on le sollicite sans arrêt. Donc, voilà pourquoi nous allons parler du jeûne. Commencez à prendre soin de vous sans rien faire. Autrement dit, plus besoin de réfléchir des heures pour savoir ce que vous allez manger et ensuite les heures de préparation. Il faut savoir qu'il existe dans le jeûne plusieurs formes. Nous allons ici parler des deux principaux. Dans un premier temps, le jeûne sec, le plus ancien et le plus strict. Il faut s'abstenir de manger et de boire pendant au moins 16 heures. Si vous faites le choix de ce jeûne, parlez-en dans un premier temps à votre médecin. Il vous accompagnera de manière adéquate pour ce type de jeûne. Quant au jeûne intermittent, hydrique, il est plus souple et plus adapté pour les débutants. Il suffit de se restreindre de manger tout aliment solide pendant au moins 16 heures et vous pouvez aller jusqu'à 3 jours tout en ayant la possibilité de boire des infusions, du café sans sucre bien sûr, et vous avez même la possibilité de boire quelques bouillons de légumes pour un apport en minéraux.
Attends Camille, tu parles d'arrêter de manger ? Impossible, c'est surtout pour un homme.
Eh bien, mon cher monitor et chers auditeurs et auditrices, le jeûne intermittent ne vous tuera point. Eh oui, il vous rendra même meilleur et il peut convenir à tous. Vous gagnerez en énergie et vos intestins, quand ils sont au repos, ne sont pas sollicités et donc par conséquent, vous redoublez d'énergie. Et cette pause alimentaire va faire énormément de bien à votre système digestif qui vous dira un grand merci. Certains d'ailleurs qui pratiquent le jeûne voient des améliorations sur leur peau, leurs cheveux et dans certains cas, comme les maladies inflammatoires telles que l'arthrose ou même le diabète, peuvent réduire. Vous aurez donc plein de bénéfices à débuter cette pratique, sans compter la perte de poids et un effet reboostant de votre système immunitaire. Et oui, les organes au repos sont moins sollicités et donc usés. Ils sont ainsi préservés et peuvent fonctionner plus longtemps. C'est ainsi que vous prenez soin de vous et que vous préservez votre capital santé sans rien faire. N'est-ce pas merveilleux ? Aucun effort, rien. Et cela ne vous coûte pas un rond. J'espère vous avoir apporté quelques éléments pour vous inviter à réfléchir à cette pratique et pourquoi pas commencer.
Merci Camille. Personnellement, moi je le pratique régulièrement, le jeûne intermittent. Et c'est vraiment une pratique bien-être qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas expérimenté soi-même en fait. Parce que c'est assez bluffant, je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Et voilà. Et tout le monde est super pressé ce matin, c'est chaud. Donc on a entendu The Monitor intervenir. Je vais te présenter notre monitor qui va éveiller tout à l'heure notre regard sur le monde avec sa chronique pêche. Nature. On aura avec nous aussi Liam, qui est notre chroniqueur sur la communauté LGBT, et on va aussi avoir Amy avec nous pour sa chronique sur les trains de vie. Et maintenant, je vais même laisser la parole à Ben, qui est notre chroniqueur de musique rock.
Salut tout le monde. Alors comme chacun le sait, le rock est très souvent comparé à une musique démoniaque, voire satanique. Mais d'où sort cette idée ? Pour cela, un petit tour de DeLorean en 1911. Robert Johnson voit le jour dans le Mississippi au sein d'une famille de travailleurs agricoles. Bien sûr, en bon garçon, il aide papa-maman, mais son truc à lui, c'est la musique. Dès l'adolescence, il chope une guitare et part à l'aventure. Le jeune homme en racontera plus tard qu'un soir de l'année 1931, à un carrefour Borgard, Mississippi, il croisera la route d'un curieux personnage chapeauté. Un échange simple lui sera proposé. Une magnifique guitare contre son âme. Échange accepté, Robert Johnson embarque l'instrument et va faire ses preuves aux quatre coins des États-Unis. Il devient le plus grand guitariste de tous les temps. Il semblerait que le diable en question se prénommerait Ike Zimmerman, un guitariste talentueux qui jouait dans les bars de Borgard, mais surtout dans le cimetière de la ville de la nuit tombée. Monsieur Johnson prit des cours avec lui pendant un an. Mais bon, on est d'accord que la légende est plus cool, non ? En 1936, Robert Johnson fait sa première session d'enregistrement avec ses plus grands succès, Sweet Home Chicago et Crossroad Blues. En 1938, Monsieur Johnson meurt. Mais attendez, 1938. Ah ouais, voici le fameux fondateur du Club des 27, avec Brian Jones, des Rolling Stones, Jimi Hendrix, dont on reparlera prochainement, Amy Winehouse, et etc. La mort de l'artiste sera tout autant mystérieuse que sa vie. Il sera mort empoisonné par un mari jaloux. Jusque-là, rien de très énigmatique. Et pourtant, personne ne sait réellement s'il est mort ainsi et où. Car en effet, on peut retrouver trois sépultures à son nom. À Morgan City, au Mount Zion Baptist Church, à Quito, au Payne Chapel, et à Greenwood, au Little Zion Missionary Baptist Church. Une vraie légende du blues qui donnera ses lettres de noblesse au rock'n'roll.
Ouais, j'adore le côté mystique qui rôde autour de la vie de cet artiste et même du coup de sa mort, hein, comme tu viens de nous dire. Moi, je reprends la DeLorean avec toi quand tu veux, Ben, pour des histoires comme celle-ci. D'ailleurs, peut-être qu'on peut aussi faire monter nos auditeurs avec nous. Et puis, on va s'écouter Sweet Home Chicago, puisque tu as dit que c'était un classique. C'est parti. Et nous voilà de retour dans la matinale infernale. On continue de voyager à travers le temps, l'espace et avec soi-même, avec la chronique d'Amy sur les trains de vie.
Bonjour à tous. Les trains ont toujours une histoire à raconter. Aujourd'hui, Compiègne s'éveille. Il est 7h30. Je suis déjà arrivée sur mon point de départ, la gare de Compiègne, rive droite. Je sens le parfum agréable du café chaud qui fume. Les voix résonnent déjà. Le temps est clair. Me voici en route vers ma destination, Paris, train direct, sans arrêt. Ce que j'aime dans le train, rêver d'évasion, contempler les paysages qui défilent sous mes yeux, les retrouvailles, le partager avec des personnes que j'aime et les tranches de vie qu'on y côtoie dans cet espace si petit et pourtant si inclusif. Mon train de 8 heures m'appelle. Presque 10 ans que je suis une habituée. Mesdames, messieurs, le train en provenance de Maubeuge et à destination de Paris Nord va entrer en gare voie 2. J'aperçois alors un autre habitué. Il se prénomme Servant. Le vendeur de journaux du relais a mis en lumière les unes du jour. Et Servant, senior, est déjà sur le qui-vive. Il ne lit que des journaux papier. Le numérique, hors de question, me dit-il. Chez lui, ses habitudes, c'est sacré. Mais c'est aussi important pour lui de faire vivre la presse locale quand il se déplace en train. Tu prends un gâteau et de la lecture. Tu vas profiter de ce court voyage de 45 minutes, me suis-je dit. Quoi ? 45 minutes de voyage. Mais tu es sûr que ce n'est pas le bus que tu prends ? M'a même soufflé Servant. La notion du temps est tellement subjective. On aperçoit notre lettre repère d'accès aux voies pour s'orienter. Voie 2, lettre S. Nous nous installons ensemble dans le train. J'y ai mes préférences. Première voiture, côté couloir si possible. Servant m'explique que pour lui, le voyage en train, c'est comme le sens qu'on donne à l'existence. Il cite Jean d'Ormesson, un train à bord duquel nous montons, mais dont nous ignorons la destination. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Mais chacun d'entre eux nous accompagne malgré la distance. Il garde un souvenir ému de son histoire d'amour et ses retrouvailles avec sa bien-aimée lors de leur voyage ensemble. Ça lui rappelle des souvenirs heureux partagés. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Amici et moi, me confie-t-il, nous étions encore très jeunes. J'avais 35 ans et elle 35. Amici était une personne unique en tout point. Rien que son prénom, Amici est un prénom rare. Très rare. À peine 20 naissances chaque année en France. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque, mon lieu de villégiature préféré dans lequel je flâne entre mes lectures et devant les unes et revues du jour. Amici et moi partagions en commun ce besoin d'exploration de la littérature et d'émissions radiophoniques. La radio était notre fenêtre sur le monde quand nous étions dans notre bulle. Nous nous sommes mariés, il nous suffisait d'échanger un seul regard pour nous comprendre. Cette délicate complicité s'est renforcée toutes ces années. Même âgés, on conserve notre âme d'enfant. Nous ne nous sommes jamais quittés, amoureux jusqu'à la fin où elle a disparu. Avant de prendre le train, je m'assis un instant sur le banc sur lequel, lors de nos promenades ensoleillées, nous refaisions le monde, préparions nos futurs voyages, et où j'aimais m'installer la tête sur ses genoux, en admirant le ciel, et me laissant border par sa tendre voix. J'aimais sa présence, son regard, je lui parle encore, souvent. Avec l'âge, les souvenirs presque s'effacent, nous n'avons plus la même notion du temps. C'est pourquoi le train me permet de voyager dans mes doux souvenirs. Je dis alors à Servant, c'est ce moment où le train arrive à quai et que votre cœur se met à battre de plus en plus fort, avec un mélange de stress et d'adrénaline. Tout ressentir comme au premier jour, quel sentiment plus fort et plus intense que l'amour. La conductrice du train détaille au micro le chemin déjà parcouru. Nous entrons en gare de Paris-Gare du Nord, terminus de ce train. Je voudrais vous dire, Servant, merci d'être un passager de mon train et de ma vie.
Ouais, moi aussi, j'ai pris le train souvent à un moment donné, mais je n'ai pas eu la chance de tomber sur les personnes comme Servant.
Allez, on raccroche les wagons et on plonge dans un univers encore différent ce matin avec la chronique du Monitor. Il apprend aux autres à découvrir la nature et le milieu aquatique par le loisir de la pêche. Avec le Monitor, vous deviendrez plus fort!
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, c'est l'heure de ma chronique consacrée aux idées reçues sur la pêche. Et je commence par un appel à l'aide que j'entends régulièrement dans mon métier, lorsque je suis avec les parents. Mon fils, ma fille, ne me parle que de pêche. Il souhaite apprendre, mais comment faire? Je n'y connais rien. Bah, bonne nouvelle. Il existe des moniteurs diplômés d'État, comme au ski, mais spécialisés dans le loisir pêche. C'est mon cas, je suis éducateur sportif, moniteur guide de pêche dans les Hauts-de-France, et on m'appelle The Monitor. C'est une référence à Thor, le dieu du tonnerre. Beaucoup de points communs, en effet. Excepté que je ne lance pas d'éclairs, mais je lance des lignes de pêche. Pour vos enfants, je peux organiser un ou plusieurs cours, des stages en fonction des objectifs et de leur niveau, de la simple découverte au perfectionnement. C'est souvent lorsqu'on est enfant ou ado que l'on démarre un nouveau loisir, un sport, et qu'on a le plus besoin d'un accompagnement professionnel afin de ne pas décrocher et de rapidement progresser. Pas de panique, The Monitor n'est pas loin. Alors si votre enfant se passionne d'attraper des poissons et vous pose des questions techniques, bah, ne lui parlez pas de votre arrière-grand-père qui avait une canne à pêche et qui remplissait son congélateur de poissons pour se nourrir. Cette vision est beaucoup trop ancienne. Pensez plutôt à des cours de pêche qui sont possibles en ville ou à la campagne et nous apprendrons les bases ensemble. Quelles sont les bases? Ben, c'est d'abord comprendre, connaître la nature aquatique, les arbres, leur rôle, leur présence au bord des berges, les espèces aquatiques qui peuvent y abriter, dont les poissons. D'ailleurs, comment vivent ces poissons ? Ben, c'est seulement lorsqu'on comprend les réponses à ces questions que l'on peut apprendre à pratiquer la pêche correctement et à rentrer un peu plus dans les techniques et dans les matériels. Car les jeunes ont aussi besoin d'un accompagnement dans l'achat du matériel technique, afin de ne pas acheter maladroitement des choses inutiles pour eux, simplement après avoir visionné une vidéo sur Internet, par exemple. Comme dans tout sport, il convient d'acheter intelligemment après avoir compris le bon usage dans sa pratique. Mon conseil est donc de débuter jeune et de ne pas hésiter à prendre des cours pour se lancer. Mieux vaut dépenser 50 euros dans 3 heures de leçons, pendant lesquelles le matériel sera prêté et décrypté, que 150 euros d'achat brut dans un magasin. Mon conseil est de débuter à partir de 6 ans si possible. D'ailleurs, un jour, Pierre Rabhi a dit ceci: « L'émerveillement est la première étape vers le respect. » J'aime beaucoup, je trouve ça très vrai et dans le bon ordre des choses. Alors, laissez-les s'émerveiller dans la nature. Vous pouvez aussi dire à vos enfants que la pêche est un loisir populaire. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est le deuxième loisir le plus populaire en France, juste après le football. On le mesure en nombre de licenciés, qui s'élève à environ 1,5 million de pêcheurs licenciés qui ont une carte de pêche, contre 2,1 millions pour le football en France. On n'est pas si loin. Et si on compte la pêche en bateau, la pêche sous-marine, la pêche est même plus pratiquée que le foot, avec 2,5 millions d'adhérents pêcheurs. Alors n'ayez pas peur que vos enfants s'intéressent à la pêche. Accompagnez-les dans cette nouvelle aventure nature et prenez-leur des cours. Souvenez-vous du Monitor. À bientôt pour la prochaine chronique des idées reçues sur la pêche.
Donc, qu'on prend un titre là ou l'autre, on garde la pêche.
Pas mal, Naël. Bon, inutile donc de travestir ses passions, mieux vaut les assumer à fond. C'est maintenant au tour de Liam, notre jeune chroniqueur transgenre, de nous faire découvrir l'histoire de la communauté LGBT.
Bonjour à toutes et à tous. En effet, ce matin, je voudrais vous parler de ces communautés au pluriel. LGBTQQIAAP. C'est le nom le plus long pour définir la communauté, qui veut dire, dans l'ordre, s'il vous plaît, lesbienne, gay, bi, transgenre, queer, en questionnement, intersexe, asexuel, allié et pansexuel. On parle aussi de communauté LGBTQ+. Ce matin, je vais me concentrer sur les deux premières lettres, à savoir les communautés lesbiennes et gays. D'abord, il faut préciser que chacune des communautés LGBTQ+ a son drapeau. Il y a donc autant de genres que de sexualités. Et il y en existe bien plus que vous le pensez. Le mois des LGBTQ+ est en juin. D'ailleurs, la première Gay Pride a été organisée le 27 juin 1970 à New York. Un an après les émeutes à Stonewall. Cet événement, à savoir, est une série de manifestations spontanées et violentes contre un raid de police dans le quartier de Greenwich Village, est souvent considéré comme la première lutte des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres contre un système oppressant. Jusqu'au 17 mai 1990, 20 ans après la première Gay Pride, donc l'homosexualité a été considérée comme une maladie mentale. D'ailleurs, l'homosexualité est encore passible de mort dans certains pays, comme la Mauritanie, le Nigeria et bien d'autres. Heureusement, d'autres nations ont évolué dans leur point de vue. Et aujourd'hui, le mariage pour tous est légal dans 31 pays, dont la France. Parlons elle et parlons G. Elle signifie lesbienne. C'est une fille qui aime une autre fille. On dit souvent que les lesbiennes, qu'elles ont les cheveux courts, elles s'habillent avec un style masculin. Bizarre, non ? C'est un cliché à dépasser. Une fille aux cheveux longs et féminines pourrait tout aussi bien être lesbienne. Leur drapeau est composé de 5 bandes à l'oreille étale dans les tons rose et blanc. G signifie gay. C'est un garçon qui aime un autre garçon. On dit souvent que les gays sont faibles. C'est totalement faux. Tous les jours, depuis des décennies, ils se battent contre l'homophobie. Alors, je dirais plutôt qu'ils sont très forts. Dans les personnalités célèbres qui sont gays, on peut citer par exemple le chanteur Mika. Par la suite, je vous déroulerai le long du parchemin de ces communautés et vous dévoilerai les autres lettres.
Waouh, Liam, franchement, merci. J'en savais pas autant sur toutes ces communautés. Du coup, j'ai hâte d'en apprendre davantage lors des prochaines émissions.
Ben oui, que de riches échanges ce matin. Merci à tous pour cette belle émission. Je rappelle que tous nos chroniqueurs du jour sont des amateurs, que cette émission a été permise grâce au soutien des bibliothèques de Compiègne qui a organisé des ateliers d'écriture visant à produire cette émission. Et bien sûr, on remercie Graphite de nous avoir ouvert chaleureusement les portes de la radio et du studio pour expérimenter en réel ces ateliers et faire de cette émission une belle production. On se retrouve vite pour une nouvelle matinale infernale. Si les auditeurs ont envie de réagir sur des choses qui ont été dites ce matin, je les invite à m'envoyer un DM sur mon compte Insta @YGBleu. Je partagerai avec toute l'équipe de chroniqueurs qu'on a eue. Merci à tous, Naël, Camille, Ben, Amy, The Monitor, Eliam et encore bravo. On se quitte avec un deuxième titre de Robert Johnson ce matin, Crossroad Blues. Bonne semaine à tous.
Au revoir.
Crossroad, fell down on my knees. I went to the crossroad, fell down on my knees. Had the Lord above my mercy. I believe I'm sinking down.